Alors, docteur Pierre Lévy-Soussan, vous êtes psychiatre et psychanalyste à Paris, spécialisé dans les questions de l'adoption. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez donné il y a quelque temps une interview au journal français Le Point concernant la difficile question de l'adoption homosexuelle. Et vous avez insisté sur la nécessité pour les enfants de s'originer psychiquement.
Oui, tout à fait. Écoutez, cela repose tout simplement sur le fonctionnement d'une adoption, qui est d'ailleurs le même que pour toute famille, c'est-à-dire que l'enfant, il arrive à transformer les adultes, c'est-à-dire l'homme et la femme, en son père et sa mère, quand il arrive justement à recréer une scène de naissance, psychique, où il aurait pu naître d'eux. C'est-à-dire que ce soit dans une famille classique où tous les enfants pensent qu'ils viennent de leur père et leur mère, et ils ne sont pas allés contrôler leur ADN. Pourquoi il pense ça? Parce que c'est quelque chose de crédible et il a toujours fantasmé derrière cette chambre qu'est-ce qui pouvait bien se passer. Et donc tous les enfants s'originent, comme on dit, c'est-à-dire pensent qu'ils naissent de leur père et de leur mère. Et l'adoption nous montre à quel point c'est vrai, c'est-à-dire que chez les enfants adoptés, et cela même dans l'adoption internationale, c'est-à-dire même lorsque les enfants n'ont pas la même couleur de peau que leurs parents, eh bien ça marche aussi. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien qu'ils viennent d'un ailleurs, mais ils auraient pu naître de cet homme et de cette femme. C'est-à-dire que il y a une sorte de, c'est comme un scénario, c'est-à-dire on appelle ça une fiction que l'enfant se crée, où il sait bien qu'il vient d'ailleurs, mais c'est comme si il venait de ce père et de cette mère-là. Et pour lui, ses vrais parents sont ses parents adoptifs. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental qui repose effectivement sur le fait que l'engendrement d'un enfant repose sur une différence des sexes qui fait que cette naissance est crédible aux yeux de l'enfant.
Alors vous parlez aussi de fiction filiative, donc ce besoin pour l'enfant de recréer l'histoire de son origine.
Exactement, c'est-à-dire face à une histoire en plus compliquée où il y a eu un abandon, parfois des délaissements, parfois de multiples traumatismes dans ce passé, c'est d'autant plus important d'arriver à recréer une naissance, mais cette fois-ci désirée par l'enfant. C'est-à-dire de la même façon que l'abandon, c'est ce qu'on appelle une interruption volontaire de filiation, l'adoption, c'est une création filiative. Donc cette seconde naissance à la famille, cette seconde naissance juridique est capitale et c'est celle qui légitimise les parents à être les parents. Et donc cette seconde naissance va lui permettre cette fois-ci de répondre à un désir parental alors que la première naissance, si je puis dire, a été suivie d'un abandon, c'est-à-dire d'un refus par les parents d'être les parents de toujours. Donc c'est d'autant plus important dans l'adoption que justement cet enfant légitimise pleinement ses parents adoptifs comme des vrais parents.
Alors on sait que les parents ont des désirs d'enfant, mais là apparemment on s'aperçoit que l'enfant a un désir de parent. Est-il vraiment du devoir de l'État, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de faire des lois ou non, de vouloir réparer chez l'orphelin cette filiation manquante dans l'ordre, si vous voulez, du mariage hétérosexuel tel qu'il est traditionnellement admis? Est-ce que c'est vraiment le travail de l'État de convenir à une idée traditionnelle de la nature génésique, un homme et une femme?
Ben, c'est-à-dire, s'il s'agit d'offrir à un enfant une nouvelle naissance dans un cadre adoptif, cette nouvelle naissance dans un cadre adoptif ne peut se faire que avec un père et une mère, et avec un père et une mère qui soient crédibles aux yeux de l'enfant. Alors là, ensuite, il faut un peu moduler les choses, c'est-à-dire les adoptions par les célibataires sont possibles, hein, aussi bien hommes que femmes, et là, d'un point de vue filiatif, c'est plus difficile pour un enfant parce que c'est une personne seule, c'est une personne séparée, mais bon, l'autre place est vacante et donc il a un père, une mère et puis l'ami du père et l'ami de la mère. C'est toujours un peu plus fragile pour l'enfant. Maintenant, est-ce que l'État doit veiller à ce que la famille pour l'enfant adopté soit quelque chose de crédible? Oui, c'est-à-dire c'est pas une famille à tout prix. Et on sait bien justement dans l'adoption qu'il y a des couples à risque, que parfois c'est beaucoup plus complexe, voire que cela peut amener à des échecs justement d'adoption. Donc bien sûr que l'État doit être garant d'une légitimité importante de cette famille, et là encore, pas à n'importe quel prix. Et concernant justement l'adoption et l'affiliation, c'est-à-dire ce qui est important pour l'enfant, c'est pas d'avoir deux pères, trois pères, deux pères, deux mères, trois mères. Hein, ce qui est important, c'est pas d'avoir autant de parents que l'on souhaite. Ce qui est important pour l'enfant, c'est d'avoir un couple parental père et mère avec qui il pourra justement jouer ce qu'on appelle les doubles identifications, c'est-à-dire où il pourra à la fois avoir des sentiments envers le père, des sentiments envers la mère, et dans cette situation adoptive, c'est d'autant plus important que justement cela lui manquait. Donc ça, c'est véritablement le premier point. Le deuxième point, c'est ne pas légitimer n'importe quel adulte dans cette position-là. C'est-à-dire, on sait qu'à quel point justement l'agrément est quelque chose d'important, c'est-à-dire tous les adultes ne peuvent pas adopter. Hein, de la même façon que tous les enfants ne sont pas adoptables, tous les adultes ne peuvent pas non plus adopter. Il y a un certain nombre de dispositions psychiques qui sont importantes à avoir pour que l'adoption marche.
Alors, on vous entend bien, mais il y a un problème nouveau, un problème récent qui se pose suite, si vous voulez, à la reconnaissance légale, officielle, institutionnelle, deux nouveaux types de couples. Alors, évidemment, au niveau naturel, tous les couples, toutes les unions, tous les modes de vie commune et toutes les sortes de colocations ne donnent pas forcément droit ou accès à la notion de famille. Mais est-ce que l'État peut s'opposer à accorder à certaines nouvelles structures d'ordre familial ce qui est accordé de fait et de droit à la structure traditionnelle? J'entends par là, dès le moment où les homosexuels sont reconnus comme des couples mariés ou mariables, ce sera très certainement le cas en France bientôt et en Suisse peut-être, est-ce qu'on peut continuer de leur refuser ce qui est l'apanage de la famille tout court?
Écoutez, donc ça c'est une question importante, c'est-à-dire en fait la question que vous posez, et en tout cas la question qui se pose en France, c'est est-ce qu'il serait de l'intérêt de l'enfant de valider deux adultes dans une position de deux pères ou de deux mères, et ou bien d'homogénéiser tout ça sous le même terme de parents. Et là, pour nous, en tout cas pour beaucoup de spécialistes de l'adoption en France, pour nous, il y a un réel problème et voire un réel danger à valider en tant que deux pères, deux mères quelque chose justement d'une situation adoptive pour l'enfant, vu que là, il n'aura à ce moment-là tout ce que j'ai dit précédemment sur un scénario filiatif, une fiction crédible aux yeux de l'enfant, là, cela vole en éclats. C'est-à-dire qu'il est impossible pour un enfant, et ça on le voit bien, qu'il soit adopté ou pas adopté, d'imaginer une scène de naissance où il viendrait de deux personnes du même sexe. Donc ça, si on touche la filiation, oui, ça pose un problème. Maintenant, ce qui est important justement de différencier, c'est le plan éducatif. C'est-à-dire, est-ce qu'un adulte, est-ce que deux adultes de même sexe peuvent élever un enfant? Bien sûr, au niveau éducatif, cela ne pose pas de problème. C'est plus compliqué pour un enfant. Et là encore, il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir actuellement qui disent à quel point c'est plus difficile pour un enfant d'être élevé dans une situation où il y a deux parents de même sexe. Mais ce n'est pas impossible. Maintenant, lorsqu'il y a justement un adulte qui a adopté un enfant et qui vit avec un ami de même sexe, est-ce qu'il faut changer son statut? Bah, écoutez, sur un plan éducatif, en tout cas concernant l'arsenal juridique en France, tout est déjà là, avec ce qu'on appelle la délégation de l'autorité parentale, avec un engagement devant notaire à prendre l'enfant si le conjoint disparaît, c'est-à-dire il y a tout l'arsenal juridique pour permettre, pour renforcer, si je puis dire, le point de vue éducatif, sans toucher à la filiation. Parce que, en tout cas, ce qui concerne la France, c'est-à-dire le fait de toucher à la filiation, cela toucherait toutes les filiations, parce que justement, il est donc dans le projet de loi, il est question de faire disparaître le terme de père et mère, de faire disparaître le terme d'homme et femme du code civil. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui va bien au-delà de renforcer le statut juridique du coparent. Donc moi, je pense que d'un point de vue éducatif, certes, c'est plus compliqué pour un enfant, mais ce n'est pas impossible. Renforcer le statut juridique du coparent, cela peut se faire sans toucher à la filiation, c'est-à-dire sans dire que cet enfant aura deux pères ou deux mères. Il est important de conserver cette asymétrie entre le père et la mère, et il est important pour l'enfant qu'il ne prenne pas cette situation comme une situation banale et comme tout le monde.
Donc en fait, vous opposez éducation et filiation et vous n'entrez pas en compte sur le fait que des homosexuels ou d'autres personnes pourraient être d'excellents parents nourriciers. Il faut pouvoir recréer la fiction.
Exactement, c'est-à-dire, c'est capital, comme vous le dites, de différencier cette question. Toutes les études, justement, qui ont été faites sont dans des situations d'éducation. Bon, ben, effectivement, deux adultes de même sexe peuvent élever un enfant, même trois, même quatre, même cinq. Enfin, dans toutes les civilisations, on a vu que parfois, les enfants étaient élevés par des groupes d'adultes, peu importe, mais au niveau de la filiation, c'est-à-dire au niveau et l'adoption est une institution de filiation, ce qui permet à l'enfant de construire justement sa famille, c'est une scène de naissance. Et ça, pas question justement d'y toucher, à moins justement de renoncer à ce qu'est l'adoption.
Alors, quelles seraient selon vous les conséquences à l'échelle de toute une société dans 10, 20, 30 ans d'une institutionnalisation de cette perte de filiation? Que deviendrait la société sans filiation?
Eh bien, les conséquences, on peut les voir. Les conséquences, à vrai dire, on les a déjà lorsqu'il s'agit justement de toucher la cohérence de la des lois concernant l'adoption. Et là, pour nous, toute la clinique des échecs d'adoption, on voit justement à chaque fois qu'un adulte transgresse la loi ou à chaque fois qu'un adulte ne se met pas en place légitime de père et mère par rapport à cet enfant, eh bien, l'enfant se retrouve devant un vide filiatif, c'est-à-dire il devient ce que j'appelle sans domicile filiatif connu, et là il a des faux parents et puis il va passer toute sa vie à en chercher des vrais. Donc ça va, si je puis dire, réifier et biologiser la filiation, c'est-à-dire ça va mettre les enfants en quête des origines biologiques d'une façon permanente, et sur un plan plus général, là encore, on le voit à chaque fois que l'État valide des lois qui sont, comme on dit, compassionnelles, c'est-à-dire qui sont dirigées par l'émotion et qui ne reposent pas sur une logique cohérente par rapport à un enfant, eh bien, cela donne des tableaux où les parents ne sont plus crédibles comme parents, c'est-à-dire l'autorité parentale n'est pas reconnue comme telle, le statut de père et mère n'est pas reconnu comme tel. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus cohérent par rapport à l'enfant. Et là, on peut observer ce que l'on observe déjà dans une clinique psychiatrique où justement les limites sont récusées, c'est-à-dire lorsque les parents se mettent dans une position de toute puissance par rapport à l'enfant, cela donne des enfants qui seront dans une position de toute puissance.
Alors, il y a 40 ans, mai 68, on a l'impression que le champ de bataille, c'était le ventre des femmes, et à notre époque, le champ de bataille, c'est l'enfant. On a l'impression qu'il y a une espèce de demande de droit d'accès à l'enfant. Est-ce qu'on est arrivé, selon vous, à une notion d'enfant-objet, d'enfant qui est une de ces préparations, de ces composants chimiques du bonheur? Est-ce qu'on peut admettre cette notion de l'enfant pour soi plutôt que de l'enfant pour lui-même?
C'est-à-dire, il y a deux choses qui me semblent capitales dans ce que vous dites. D'une part, il y a le fait que, il n'y a plus de droit de l'enfant, il y a un droit à l'enfant. Et ça, c'est une véritable mutation, mutation juridique et sociale. C'est-à-dire que l'enfant est considéré comme un objet de bonheur que l'État devrait satisfaire. Et là, non seulement l'État, mais aussi les médecins, qui devraient fournir comme ça des enfants à tout prix à tous les adultes qui en font la demande, quel que soit l'âge, quelle que soit la sexualité, quel que soit tout cela. Donc là, il y a une vraie modification du rôle de l'État et du rôle des lois par rapport à cela. Et deuxièmement, c'est aussi la conséquence d'une sorte d'hyper-individualisme qui n'arrive pas à se mettre à la place d'un enfant, qui n'arrive pas à s'identifier à un enfant et à ses besoins les plus fondamentaux, qui sont ce qu'on appelle le droit aux différences. C'est-à-dire, au nom de quelle modernité priverait-on un enfant d'un accès aux différences, d'un accès aux différences dans le scénario de sa naissance, alors que tous les autres enfants en bénéficient. Donc là, du coup, c'est intéressant parce que la modernité va jouer contre la modernité. C'est-à-dire, la modernité va jouer sur un modèle effectivement régressif où on proposerait à l'enfant quelque chose de complètement homogène. C'est-à-dire, il n'y a plus père et mère, il y a des parents, quelque chose de tout à fait indistinct, quelque chose d'indifférencié, et à lui de s'en débrouiller. Donc là, il y a pour le coup, pour moi en tout cas, un véritable recul de la modernité qui n'arrive pas à voir, mais qu'est-ce qui nous relie tous? Et ce qui nous relie tous, finalement, c'est le fait que tout le monde doit affronter cette différence des sexes qui est à la base de notre origine. Tout le monde est confronté à cette altérité, et qu'il est important, et c'est ce qui nous a constitué, c'est ce qui, aussi ce qui nous a construit, mais aussi ce qui a construit la civilisation depuis des milliers et des milliers d'années, et au nom d'une certaine modernité, on devrait s'affranchir de cela, avec un libre accès à tous les enfants, quelle qu'en soit la façon. Donc là, pour le coup, c'est à la fois le résultat d'un hyper-individualisme, mais aussi d'une vision hyper-libérale, voire ultra-libérale, appliquée au domaine du droit à l'enfant.
Oui, alors effectivement, tout ce qui concerne la suggestion à la définition sexuelle, vous citez Freud, évidemment, dans le point. On est assez surpris de voir que la revendication homosexuelle, qui était d'abord une revendication de droit à ne pas être persécuté, s'est laissée engager dans cette demande qui semble assez récente de pouvoir avoir un enfant comme des époux, dans une conception très traditionnelle, en nom. Est-ce que vous avez éventuellement des éléments d'explication à cette espèce de modification des attentes de la communauté homosexuelle? Est-ce que c'était prévisible ou est-ce que c'est un accident de parcours que cette volonté d'avoir droit à l'image de papa et maman?
Écoutez, je pense pas que ce soit un incident de parcours. Je crois que c'était justement très très surdéterminé par l'histoire justement de ces mouvements-là, qui ont été de plus en plus identitaires. C'est-à-dire, lorsque vous voyez l'origine de ces mouvements militants, parce que là encore, il ne faut pas mélanger la demande des militants et puis ce que pratiquent les gens qui ont cette sexualité, qui adoptent de façon où ça se passe très bien, où ils n'ont pas besoin d'un changement de loi pour cela. Donc, il faut vraiment différencier ce discours du discours militant actuel. Et on voit que ce discours s'origine au mouvement, justement, des années, comme vous disiez, 70, américains, où il y avait de réelles persécutions de gens en raison de leur sexualité, et que ces dégâts qui ont été faits à la communauté homosexuelle a cristallisé justement quelque chose d'identitaire, c'est-à-dire que il y a eu justement une naissance d'un mouvement parce que c'était justement une minorité, parce que c'était une minorité opprimée, et à partir de là, la pratique sexuelle est devenue identitaire. Et à ce moment-là, le glissement a été fait d'une identité, avoir les mêmes droits qu'une minorité opprimée, et là, ils rentrent, si je puis dire, ils ont voulu catégoriser une sexualité particulière dans un mouvement identitaire. D'où les revendications actuelles. Mais sans voir que, à l'origine, il y avait quelque chose de très particulier qui a été fait, c'est-à-dire le fait de radicaliser une pratique sexuelle pour en faire quelque chose d'identitaire. C'est-à-dire à l'opposé de ce qu'avait Freud. Freud, justement, dans les années 1900, a tout fait pour, au contraire, désinsérer l'homosexualité du juridique et de la loi. C'est-à-dire que lorsqu'il avait été contacté par Kraft Ebing en raison justement de tous les homosexuels qui étaient mis en prison en raison de leur sexualité, Freud a dit il y a une homosexualité chez tout un chacun. Donc ça a été une vraie révolution de parler d'homosexualité psychique en faisant quelque chose justement d'universel, pour dire qu'on n'a justement pas persécuté, ou en tout cas pas catégorisé, les personnes en raison de leur sexualité. Et là, on revient en arrière, c'est-à-dire là, on revient 100 ans en arrière, c'est-à-dire il est demandé d'avoir une catégorisation spécifique au nom de cette sexualité et d'avoir des droits spécifiques au nom de cette différence. Donc là, on voit bien justement le côté régressif qui montre bien l'affaire identitaire derrière, qui correspond sans doute à quelque chose de notre époque, qui est un vrai manque et de vraies difficultés par rapport à qu'est-ce qui constitue l'identité de chacun.
Alors vous mentionnez ces origines des années 70. Je sais que l'une des revendications du groupuscule du Front homosexuel d'action révolutionnaire qui avait connu le jour à la Sorbonne en mai 68, l'une de ces revendications était de dynamiter la famille des hétéroflics. Est-ce que vous pensez qu'actuellement cette revendication à l'enfant fait partie d'une préparation intentionnelle?
En tout cas, je pense que les enjeux, en tout cas en France, les enjeux sont réellement ceux-là, parce que lorsqu'on a vu dans le projet du Sénat et dans le projet de l'Assemblée nationale le fait de faire disparaître le terme de père et mère et le terme d'homme et femme, oui, dans ces cas-là, on se dit que le combat derrière était effectivement un combat propre à la théorie des genres et propre à cette uniformisation totale de la société, c'est-à-dire, et du coup, oui, il s'agit d'une idéologie derrière, et d'un mouvement militant pour justement certaines personnes qui se qui, qui se revendiquent de ces mouvements-là. Et là, on en arrive à quasiment une novlangue, c'est-à-dire au fait d'interdire certains mots, père et mère, qui vont devenir justement politiquement incorrects parce qu'ils seraient jugés comme discriminants. Et là, pour nous, le glissement est vraiment fait.
Alors le sujet fait aussi débat en Suisse, et le Conseil fédéral, après avoir dit pendant pratiquement 10 ans qu'il n'y avait pas de droit objectif à l'adoption, a complètement tourné casaque et dit exactement l'inverse aujourd'hui. Sa défense n'est pas celle de la revendication des lobbies homosexuels ou des différents groupements d'intérêts qui iraient dans ce sens, mais une volonté de réduire une injustice qui serait faite aux enfants d'homosexuels qui ne pourraient pas être adoptés par leurs partenaires. Donc un droit objectif à l'enfant d'être adopté. Que pensez-vous de cela ?
Ben c'est vraiment quelque chose pour nous qui nous semble totalement hypocrite. Parce que justement, comme je le disais précédemment, renforcer le statut du conjoint sur un plan éducatif, on n'a pas besoin de toucher à la filiation pour cela. Et on n'a pas besoin à égaliser les statuts de père ou de mère par rapport à l'enfant. Donc là, c'est véritablement totalement hypocrite, parce qu'il y a déjà, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, il y a tout l'arsenal juridique pour permettre justement de renforcer ce statut éducatif du conjoint sans toucher à la filiation. Et c'est pour ça que je vous dis, si on voit les choses du côté de l'intérêt de l'enfant, il est au contraire de l'intérêt de l'enfant de ne pas brouiller ses repères, de ne pas le mettre dans une situation folle qui amènerait à penser qu'il a deux pères ou deux mères. Donc au contraire, s'il s'agit de l'intérêt de l'enfant, il est au contraire extrêmement important de respecter le fait qu'il ait un père et un conjoint du père, ou une mère et un conjoint de la mère. Et ça, on le voit bien dans nos consultations, c'est-à-dire les situations où les enfants s'en sortent bien avec une mère et sa conjointe, c'est lorsque la mère n'a aucun de doute dans sa position et qu'elle ne cherche à aucun moment de faire de sa conjointe une seconde mère. Et là, l'enfant arrive à s'en sortir. C'est plus difficile pour lui, mais il arrive à s'en sortir. Et lorsque, justement, dans nos cabinets, on reçoit un couple qui est dans la confusion, voilà, nous sommes les deux mamans de cet enfant, là on voit un enfant mais totalement perdu, parce que là effectivement il n'a plus de repère. Donc au contraire, s'il s'agit de l'intérêt de l'enfant, il est important de renforcer le statut du conjoint, mais surtout de ne pas brouiller ses repères identificatoires en le laissant à penser qu'il peut avoir de mère ou de père.
Alors on vous entend bien, mais en allant dans ce sens, donc en évitant gain narcissique total et en permettant à l'enfant de recréer sa fiction filiative en imaginant qu'il a un parent et un conjoint d'un de ses parents, on comprend que l'enfant peut s'en sortir, qu'il s'en sort mieux en général que s'il y a une confusion qui est volontaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de laisser croire aux partenaires homosexuels qu'ils peuvent suppléer suffisamment aux défauts de mère ou de père en étant à deux dans cette affaire? Qu'on risque de créer un certain nombre d'occurrences, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais ce qui est important, c'est justement que cette mère ou ce père assume justement cette position-là par rapport à l'enfant. C'est-à-dire, il est au contraire très important que cette personne qui s'est engagée comme père et mère auprès de l'enfant assume le fait qu'il ne lui a pas donné de père ou il ne lui a pas donné de mère. Et ça, on le voit bien aussi dans l'adoption pour les célibataires, c'est-à-dire il est très important que le ou la célibataire assume le cheminement qui fait qu'il l'a privé de père ou il l'a privé de mère. Donc au contraire, ce scénario qui consisterait à lui dire de père, de mère, ça serait comme vouloir éviter cette question, alors qu'elle est capitale justement à assumer auprès de l'enfant, un père ne sera jamais une mère comme les autres. Et là encore, c'est pour ça que le terme de parent, finalement, ça se retourne contre nous, si je puis dire. Parce qu'à force de parler des parents, on a cru que tous les parents étaient les mêmes et qu'ils étaient totalement équivalents. Et alors en France, par exemple, on a une loi qui a justement voulu instituer le fait qu'il n'y ait pas de différence entre le père et la mère. C'est la loi 2002 qui met un certain nombre de choses en place lorsque les parents se séparent. Et puis cette loi dit « parent égal, parent égal ». Et là, on a vu des dégâts considérables, c'est-à-dire père et mère qui accueillaient exactement l'enfant dans les premières années de la vie après une séparation, première, deuxième, troisième, en tout cas dans les 6 premières années. Lorsque vous mettez un enfant dans une situation où il voit autant son père que sa mère une semaine, ça a donné des tableaux cliniques dramatiques. Donc là encore, on voit, lorsque les lois veulent faire disparaître les différences entre père et mère, c'est une fois de plus l'enfant qui en paye les conséquences.
Alors, il y a effectivement une distinction à opérer entre les orphelins qui viennent de l'étranger et les enfants de conjoints divers. Enfin, il y a toujours un homme, si vous voulez, si on prend le cas d'adoption d'un enfant français, suite à une séparation, quelqu'un qui aurait changé d'orientation ou qui divorce, ce genre de choses-là. Est-ce que le droit qu'on donnerait au nouveau partenaire ne risquerait pas de supprimer le droit de l'un des géniteurs?
Ah ben là, ça serait dramatique. C'est-à-dire, dans cette situation, comme vous dites, que les Américains appellent les enfants issus d'une UHS, c'est-à-dire d'une union hétérosexuelle antérieure, cet enfant, il a déjà un père et une mère. Donc celui-là, vous n'allez pas lui rajouter un père et une mère. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose dans les familles où ensuite la mère refait sa vie avec un beau-père, etc. Vous n'allez pas, là encore, transformer ce beau-père en père. Il est au contraire extrêmement important de ne pas mélanger les choses au point de vue de l'enfant et que bien sûr qu'il aura toujours un père et une mère. Et si cette mère vit avec une femme ou ce père vit avec un autre homme, pas question là encore de toucher la filiation. Maintenant au niveau éducatif, oui, les choses peuvent être aménagées, mais certainement pas en multipliant le nombre de pères ou de mères au fur et à mesure des aventures de monsieur ou de madame, parce que là encore, sans ça, on ne s'en sort plus. Et là, on voit bien que l'enfant devient, comme vous le disiez auparavant, quelque chose où il devient un enfant objet, c'est-à-dire un enfant en jeu du droit des adultes. Et à ce moment-là, c'est toujours à son détriment. Et c'est vraiment pour moi l'une des grandes leçons de la modernité, c'est-à-dire depuis qu'on parle des droits de l'enfant, jamais l'enfant n'a été aussi maltraité.
Que pensez-vous que va faire le gouvernement français? Est-ce que vous pensez que, étant donné les pressions et les promesses qui ont été faites pendant la dernière campagne présidentielle, est-ce que vous pensez que des lois allant dans le sens de plus d'adoption pour les homosexuels vont passer au Parlement?
Bah écoutez, j'en sais rien. Ce que je constate, c'est qu'ils se sont beaucoup avancé sans véritablement connaître ce qu'était l'adoption. Il est évident que s'ils changent les règles comme ils veulent le faire, c'est-à-dire avec deux pères, deux mères, aucun professionnel de l'adoption, que ce soit en national ou international, ne validera cette nouvelle filiation parce que c'est une filiation folle. Donc bien sûr que les pays d'origine des enfants ne remettront aucun enfant à ces couples à risque parce que bien entendu deux pères deux mères pour un enfant ça ne veut rien dire. Donc ça c'est une première réalité. Donc est-ce qu'ils vont chercher de s'adapter à la réalité de l'adoption, c'est-à-dire comment justement renforcer le statut du conjoint dans quelque chose qui soit suffisamment stable pour l'enfant? Oui, à mon avis c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et par rapport au mariage, une fois de plus, le mariage, s'il s'agit de célébrer l'amour, bon, bah, tant mieux, c'est pas ça qui importe. En revanche, toucher la filiation, oui, à ce moment-là, cela poserait des problèmes. Parce que là, on tombe dans justement les parents A, B, C, D, et là, dans quelque chose de non structurant. Donc, pour l'instant, ils viennent de, enfin, ils commencent justement leurs auditions par rapport à cela, les auditions des professionnels, on va voir ce que cela va donner. Mais moi, je vois les choses, en tout cas j'espère que les choses vont être dans le respect justement des filiations qui touchent non seulement l'adoption mais aussi toutes les familles classiques. Hein. C'est-à-dire lorsqu'ils ont dit justement mariage pour tous, en fait cela consistait à transformer tous les mariages en mariages homosexuels avec disparition de père et mère et d'homme et femme. Donc là maintenant ils ont vu à quel point les enjeux filiatifs est important, j'espère qu'ils vont les respecter et que par rapport à l'adoption, ils vont conforter le statut du conjoint, point à la ligne. Mais ce qui est véritablement visé pour moi, c'est certainement pas l'adoption qui est visée, c'est les PMA, c'est-à-dire c'est les procréations médicales assistées, avec le libre accès pour les célibataires à cela. Et là, le danger est véritablement extrêmement présent parce que ça consisterait à transformer les médecins en fournisseurs d'enfants.
Voilà, bon, on espère effectivement qu'on n'ira pas jusque-là. Docteur Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre à Paris, nous vous remercions.
Merci, merci beaucoup.